Alors, vous êtes toujours sur Radio Campus en direct des journées portes ouvertes de l'IUT. Nous accueillons notre dernière invitée sur le plateau. Raphaël Berthaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes co-chef du département carrière sociale. Comment allez-vous ?
Je commence à être un peu fatiguée mais joyeuse parce qu'il y a plein de gens et j'ai rencontré plein de jeunes gens motivés et curieux, donc je suis ravie.
En même temps, c'est l'occasion. Alors, première question, qu'est-ce que c'est le BUT carrière sociale ? Qu'est-ce qu'on y apprend ?
Alors, c'est un BUT qui, carrière sociale, parcours animation socioculturelle, à préciser parce qu'en fait, il y a plusieurs parcours et ce n'est pas exactement les mêmes métiers. C'est tous du métier du social, donc de l'attention à l'autre, mais pas de la même manière. Et la particularité de l'animation socioculturelle, c'est qu'on s'intéresse toujours aux gens dans des collectifs, dans des groupes. Donc on a une formation qui permet de s'intéresser à la question des individus comme des groupes, en sociologie, en psychologie, en psychosociaux, mais aussi sur la question des dynamiques de groupe et en sciences de l'éducation. C'est donc un travail qui consiste à utiliser des outils culturels pour un objectif social, d'où le socio-culturel. Les outils culturels qu'on va utiliser, ça peut être autant le sport que le théâtre, que la photographie, que la littérature, mais pas pour des pratiques en soi et pas seulement pour divertir ou occuper, mais vraiment avec une perspective d'émancipation, de travail avec les individus sur leur épanouissement personnel dans la société, une réaffirmation de leur place dans la société. C'est des gens qui vont être parfois en précarité sociale, parfois avec des handicaps, parfois c'est des personnes âgées, ou on travaille sur la parentalité. En tout cas, voilà, on va travailler avec des gens de tous les âges de la vie. C'est ça qui est assez passionnant dans ce métier. Et on peut changer de type de public au cours de sa carrière ou de son parcours professionnel.
Et quand on rentre dans ces formations-là, on peut prétendre à quoi comme poste ou métier après dans
Alors,
le social.
On peut prétendre au bout d'un but, c'est-à-dire d'un bac plus 3. C'est une formation universitaire. On va pouvoir prétendre à travailler dans des structures. Pour vous faire les deux exemples les plus évidents, mais qui ne sont pas réducteurs, soit dans des centres sociaux, c'est-à-dire des structures d'animation socioculturelle, où c'est le seul objectif, et qui se concentrent sur un territoire, et on va travailler avec tout type de public, tout type d'âge. On peut aussi travailler dans des équipes pluridisciplinaires, comme dans des EHPAD, où on est le seul ou la seule animateur, animatrice, avec une équipe qui va apporter d'autres types d'attention aux individus présents dans la structure. Là, on va être dans du médico-social, mais on apporte une perspective d'animation. On va pouvoir travailler sur des postes de gestion, voire de direction de structure éventuellement, à la fin du but 3, de coordination de projet. On peut être aussi dans des services jeunesse. C'est très très loin du BAFA. C'est 3 ans d'études et donc une capacité. Souvent, on voit les animateurs socioculturels dans ce qu'il y a de plus évident, c'est-à-dire leur temps d'interaction avec des publics. Mais cette interaction, c'est l'aboutissement d'un long processus de penser le projet, de l'organiser d'un point de vue la coordination des moyens financiers, logistiques, humains, de travailler à des déroulés d'animation qui peuvent s'étendre sur plusieurs semaines, plusieurs mois, parfois un an, voire plus. Donc voilà, il y a tout un encadrement, une pensée du projet qui est vraiment la technicité et le savoir-faire des animateurs socioculturels.
Et les étudiants qui s'inscrivent dans ce cursus, ils viennent de quelle filière, de quel bac ?
C'est vraiment très vaste. On va avoir des bacs pro ou techno sur les métiers du social, mais on peut avoir aussi des bifurcations parce que à 16 ans, 17 ans, on peut tout à fait changer d'avis. Et il faut que ce soit autorisé et possible. On peut avoir des gens qui viennent de bacs généraux aussi. Nous, quand on lit les dossiers, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'intéresse effectivement au niveau scolaire, avec surtout l'idée, pas forcément de prendre les meilleurs étudiants, les meilleurs élèves, mais simplement qu'ils aient un niveau en français, en histoire, en anglais, qui leur permette de suivre le rythme. Parce que c'est un rythme assez intense, avec des cours tous les jours, toutes les semaines, toute la semaine, beaucoup de demandes de lecture et d'écriture. Donc ça, c'est vraiment une partie de notre analyse. Mais l'autre partie, elle va se faire sur qui sont les étudiants, les futurs étudiants, les candidats. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont une pratique sportive, culturelle, de longue date? Est-ce qu'ils ont un engagement associatif? Est-ce qu'ils ont construit un projet avec un centre social pour un voyage quelque part? Enfin, c'est plutôt leur engagement dans le monde, dans la société, une pratique sportive qui est aussi éventuellement le fait d'être arbitre dans son club, de s'occuper des minimes. Ça, c'est vraiment des éléments importants pour nous dans les candidatures. C'est cet engagement dans le monde. Alors évidemment, à l'aune de parcours qu'on peut avoir à 17 ans, pas de problème. Mais voilà, commencer à avoir un peu des reliefs là-dessus, et ça compte aussi beaucoup pour nous.
D'accord. Et à votre avis, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui seraient intéressés par le BUT, quels sont les avantages et les inconvénients de cette formation ?
L'avantage, il y en a plusieurs. Là, il y en a deux qui me viennent en tête si j'étais étudiante. Le premier, c'est qu'on est très encadré, à la fois par l'équipe pédagogique, par la relation avec les autres étudiants, avec les étudiants des autres années. On est sur un site ici, à l'IUT de Tours Nord, qui est extrêmement convivial, qui est assez grand pour qu'on ne se sente pas isolé, mais qui a quand même, qui peut créer des espaces où on ne se sent pas perdu. Donc voilà, il y a cet accompagnement, et je pense que quand on quitte ses parents pour la première fois, quand on rentre dans le monde universitaire, ça peut être plus rassurant de faire ses premiers pas dans l'université de cette façon-là. L'autre avantage, moi je trouve, c'est que pour un premier pas comme ça dans le monde universitaire, c'est une formation pluridisciplinaire. On va faire de la sociologie, mais aussi du droit, mais aussi de la psychologie. Et donc, ça permet de découvrir toutes ces disciplines qu'on n'a pas du tout abordées la plupart du temps dans le secondaire, et éventuellement de bifurquer si on a une appétence pour une licence de socio ou un master de socio. Ça peut être certains, à l'issue du BUT, vont sur des masters de sociologie ou sur des formations en psychologie, parce que voilà, ça leur a permis de développer un intérêt pour une matière.
Moi, j'ai une question ultime pour Raphaël Berthaud. Donc, ce matin, on a eu la chance d'avoir sur notre plateau Nathalie Lévy, donc, qui est directrice adjointe à la pédagogie, qui nous a expliqué en quoi cette IUT pouvait être considérée comme un laboratoire pédagogique. Et donc, moi, je serais curieuse de savoir comment, dans cette filière carrière sociale, on fait émerger une conscience professionnelle.
Les moyens, vous voulez dire. Alors, on va la faire émerger au fur et à mesure des années, notamment en mettant les étudiants en situation professionnelle de façon très accompagnée et encadrée la première année, et de plus en plus en autonomie. Mais on est toujours là pour recueillir leurs expériences, leurs impressions, leurs incompréhensions éventuelles, et décoder avec eux, décrypter, faire de ces expériences des savoir-faire et des expertises. Et leur montrer régulièrement dans même les relations qu'a le département avec les partenaires professionnels et institutionnels, la manière dont il y a un savoir-être professionnel qu'il va falloir respecter. On leur dit qu'ils ne sont pas pour nous que étudiants, ils sont aussi de jeunes professionnels qui sont déjà dans le métier d'une certaine manière, qui sont déjà en train de se construire des réseaux et des liens qui vont les emmener d'abord sur un stage et puis éventuellement sur un premier contrat. Donc ils sont déjà à l'œuvre, et donc cette conscience professionnelle, elle va se faire aussi dans la relation publique, dans l'attention qu'on doit avoir à sa posture, à ses actions, à leurs conséquences, et je pense que ça les responsabilise assez tôt et assez vite.
Et alors, une dernière question, je sais, j'abuse et je déborde, mais bon, je ne peux pas m'en empêcher. C'est de dire, donc là, vous avez bien expliqué qu'il y a des stages avec des personnes en EHPAD qui peuvent avoir des difficultés, quelles qu'elles soient. Peut-être qu'il y a des situations de stage qui sont compliquées parfois. Donc, des fois, qu'est-ce qui est mis en œuvre, par exemple, est-ce qu'il y a des groupes, enfin, pas des groupes de parole, mais disons des analyses de pratique ou des choses comme ça, où les étudiants peuvent dire, ça, j'ai été mis en difficulté parce que je ne savais pas quelle attitude adopter, je ne savais pas ce que je pouvais proposer. Comment ces choses-là sont prises en compte dans la formation ?
à chaque fois que les étudiants sont sur un terrain pré-professionnel, c'est-à-dire soit dans des temps d'ateliers, d'animation qui font du point de vue des projets de l'IUT, soit lors des stages, puisqu'on a ces deux versants-là, il y a toujours un temps de ce qu'on appelle d'exploitation de stage, mais qui est en fait un temps de parole partagée en petits groupes, avec des tuteurs, des professionnels, pour justement déplier l'expérience et analyser tous ces temps de malaise éventuel, d'incompréhension éventuelle ou de mise en difficulté. Au moment du stage, quand les stages sont longs, on a aussi un temps qui est organisé de dialogue avec les tuteurs pendant le temps du stage, pour que ça puisse intervenir pendant qu'ils sont sur le terrain, et on a un lien qui est assez proche avec eux pour que si, par exemple, il y a une problématique qui se pose sur la structure de stage, ils soient en capacité de nous appeler. On a déjà arrêté des stages et on leur trouve une autre structure rapidement. Il n'y a jamais de problème que des solutions. Et l'idée, c'est de ne jamais les mettre en échec, de toujours essayer de les accompagner au mieux et de transformer cette expérience en un savoir-faire, en une expertise. Jamais d'éléments de déception ou de les laisser seuls avec une incompréhension. Ça, c'est notre rôle.
C'est bien, ça veut dire qu'il y a une pensée positive, disons, de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on est dans... Bah, c'est toujours une expérience. C'est pas grave si c'est pas aussi bien que ce qu'on aurait voulu, c'est une expérience.
Ah oui, et puis... Pour beaucoup d'entre nous, on a une expérience professionnelle de l'animation. L'animation, c'est le royaume de l'adaptabilité. C'est le royaume de l'imprévisibilité. On travaille avec du réel, avec des publics. Et donc, nous-mêmes, on s'est déjà retrouvés dans des situations où on doit, au dernier moment, trouver une solution, inventer, s'adapter. Donc, on leur dit que ce qu'ils vivent, on l'a vécu et on le vit encore. Donc, on est là avec eux pour trouver la solution, rebondir, prendre le meilleur parti de ce qui s'est passé et surtout jamais s'arrêter sur ce qui pourrait être un échec, mais dire bah, c'est une bifurcation inattendue. Allons-y, vers où on va.
Merci Raphaël Berthaud. Et alors si d'aventure, parmi nos auditeurs et auditrices, des personnes souhaitent en savoir plus sur le travail social, quels médias vous pourrez leur recommander? Où est-ce qu'on peut lire, écouter ou voir des choses intéressantes sur l'animation et le travail social?
Déjà, ils peuvent venir voir le site. et puis, effectivement, vous avez beaucoup aujourd'hui de centres sociaux qui vont avoir des ressources en ligne très bien faites et des revues sur le travail social. Là, je suis désolée, je n'ai pas en tête de référence à vous donner. Je suis très honteuse. Donc, on va mettre ça sur le site.
Super, merci beaucoup. Et puis, j'en profite pour remercier aussi autour de ce plateau, Marc, qui est donc bénévole à Radio Campus, qui est venu prêter main forte à ce plateau.
Bastien. Bah merci à vous.
Voilà, merci d'être venu. Bastien aussi, donc voix de sortie, qui est derrière la console, mais qui est bien là aussi. On remercie Juliette, qui était là ce matin, ainsi que Camille, également bénévole à Radio Campus, et Fred, qui est notre coprésident et qui a réalisé l'émission ce matin. Peut-être qu'on peut rappeler... Marc, les invités qui sont venus aujourd'hui sur notre plateau, puisqu'on les retrouvera en podcast sur notre site, si tu veux faire un petit rappel.
Matin, on a reçu pas mal d'invités, notamment Delphine Clémenceau, qui est la directrice adjointe en communication de l'IUT. On a eu aussi les chargés de mission de relations internationales, Agnès de Fraissinette, avec deux étudiants qui étaient partis en Espagne pour Marin Lemoine et Alice Reboul au Costa Rica. Oui, ça s'écrit bien comme ça. Nathalie Lévy, qui est la directrice adjointe à la pédagogie. On a reçu aussi des représentants des BDE, Benjamin Mollion et Louane Paquet. En ce qui concerne les responsables du SEFCA, c'était Sandrine Hadji, une stagiaire Michel Létor, Marion Wirs, qui était aussi stagiaire. Et on a notamment reçu Nicolas Souris de l'EPJT, donc pour le master de journalisme. Et cet après-midi, on a reçu sur notre plateau donc le directeur de l'IUT, Jean-Charles Buntel, deux étudiants pour le module multisport Andy Valide, qui font partie du BUT Carrière Sociale. Deux représentantes du CFA, donc Cécile Vallée, chargée d'apprentissage, ainsi qu'une apprentie en technique de communication Lucie Ridel. On a aussi reçu à l'émission d'avant Mélisse Durand et Sabine Barra concernant le SUAPS. Et donc pour terminer, Raphaël Berthaud, co-chef du département des carrières sociales.
Merci à tous et à toutes. Et bien sûr, cette délicieuse émission sera retrouvée en podcast sur notre site dès la semaine prochaine. Il me reste à vous souhaiter à tous une excellente fin de journée. Et on va se quitter en musique. Là, je me tourne à nouveau vers Bastien en régie.